comme dans le studio d'ailleurs de Radio Campus Bordeaux, dans ce Café Campus.
Café débat.
Et on reçoit Lucien Ducasse, bien connu de nos auditeurs, pour animer Bande de Fainéants. Salut Lucien.
Salut, bonjour.
Et c'est pas en tant que fainéant que tu viens aujourd'hui, c'est en tant
quand
que...
même un peu fainéant.
Un peu quand même. On va parler d'Escape Game aujourd'hui avec nos invités. Donc Julie Manot, bonjour Julie.
Bonjour.
Et Capucine Chauffourier. Chauffonnier ?
Chauffourier.
J'ai mal écrit, mais ça va, je m'en sors bien. On va parler d'Escape Game, parce que Julie Manot, tu as créé la structure Once Upon Lock.
Exactement.
Qui est une sorte d'Escape Game, mais à domicile. Donc on a eu les concerts à domicile en appartement, on a eu les pièces de théâtre souterraines dans les caves personnelles avec le Festival des Caves récemment, mais maintenant on a le jeu de rôle aussi à domicile, avec cet Escape Game spécial. L'occasion pour moi de plonger complètement dans cet univers, je vous avoue que je n'en ai jamais fait encore d'escape game. C'est pour ça que j'ai invité Lucien en disant bah, vas-y, aide-moi un peu. Parce que Lucien, on va révéler un peu ta vie privée à nos auditeurs.
Aïe, aïe, aïe.
Tu es, comment on appelle ça, maître de cérémonie
dans un... ouais, non, ça c'est toi quand tu fais les musiques de rue. Moi je suis
maître du jeu. Maître du jeu dans un escape game.
Game Master, exactement.
Donc, du coup, on plonge complètement dans l'escape game. Donc toi, c'est l'escape game Escape Yourself.
Tout à fait.
Un escape game traditionnel, ça s'est développé, grand succès hein, depuis ces derniers temps.
Ouais.
Alors, posons la base, un escape game c'est quoi déjà ?
Alors, un escape game, tout simplement, ça vient du concept des escape rooms qui sont développés il y a très très longtemps. Il commence à faire un petit moment entre, il y avait un peu en Europe de l'Est et au Japon aussi, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de mes collègues. Et du coup, au départ, c'était une pièce seulement dans laquelle tu es enfermé pendant une certaine durée de temps, classiquement une heure, et tu accomplis plusieurs énigmes, tu évolues d'étape en étape pour ouvrir des cadenas, des coffres, des choses comme ça, et pour arriver à un objectif final. Et puis bon, ça s'est développé de plus en plus.
Ouais,
on est passé d'une salle à plusieurs salles avec des concepts particuliers, de l'horreur, des fois pas d'horreur, des trucs pour les familles, des trucs où il faut escalader, des trucs où vous pouvez escalader.
En tout cas, le but du jeu, c'est de sortir de la pièce.
De façon générale. Après, voilà, tu peux être amené à faire des choses à l'intérieur. Tu peux faire des petites enquêtes. Tu peux faire des. Il y a plein de scénarios différents, dans plein d'escapes différents. Et voilà. Et donc ça s'est développé un peu partout dans le monde.
Et c'est très bien de faire ça en groupe. Parce qu'en groupe, du coup, ça développe vraiment l'esprit collectif.
Un peu la cohésion.
On s'engueule un peu. Et puis...
voilà, ouais, c'est vrai, sociologiquement, c'est intéressant.
Ça peut. Et toi, Julie, donc, du coup, tu as développé ça en intérieur. C'est le même principe. Il faut s'échapper de l'appartement intérieur ou du coup, tu as dû adapter un peu?
Alors, du coup, c'est le même principe. Donc, moi, ce n'est pas un escape game papier. On n'est pas autour d'une table. Voilà, je ramène du matériel. J'ai un temps d'installation quand même assez long, et du coup je ramène, alors je refais pas toute la déco hein, qu'on soit d'accord,
on refait tout, le salon, la cuisine façon horreur, façon western,
exactement. Mais voilà, donc j'ai tout mon matos, j'en dirai pas forcément plus sur le matériel pour garder le suspense, mais voilà, et j'installe tout ça, et une fois que c'est installé, donc j'envoie un message aux gens pour leur dire que c'est bon, c'est prêt.
Ils peuvent entrer.
Et là, le jeu commence.
Donc, voilà. Typiquement, ça peut servir pour une soirée d'anniversaire, par exemple. Si on fait une soirée avec une bande de potes, on fait appel à tes services.
Totalement.
Pour jouer dans ce qu'on appelle le jeu de rôle. Ce qui est drôle, c'est que le jeu de rôle, justement, moi, je n'avais pas compris avant, il y a longtemps, hein, mais je pensais que c'était le jeu de rôle. Donc, je pensais que c'était forcément marrant.
Il fallait rigoler.
Il fallait forcément
trop rigoler. Cette syllabe. Mais je reviens sur ce qu'elle disait. Tu as évoqué l'escape game papier, notamment sur table et de ça. Oui. Et c'est vrai que du coup, là, ça fait un peu ce que tu proposes, ça fait un peu le pont entre l'escape game, la salle où on va, comme le lieu de divertissement où on va faire un escape game, et ces jeux de société qui se développent de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des jeux vidéo aussi, bon, ça fait plus longtemps, il y avait les point and click il y a des années, des choses comme ça qui faisaient un peu office d'escape game virtuel. Et là, du coup, c'est pas mal, parce que ça fait le pont entre. Voilà, il y a un côté. On a l'impression d'être dans l'escape game chez les autres, mais chez nous, quoi.
Ouais, on a à la fois l'impression d'être dans un jeu de société. Dans un jeu de rôle un peu grandeur nature.
Oui, de manière générale, dans l'escape game, oui, ça peut faire ça. Ouais.
Et est-ce qu'il faut forcément incarner des personnages? C'est pas forcément évident, ça, pour les joueurs, de se dire, bon, je me mets dans la peau dans ambiance horreur, ambiance western.
Non, il n'y a pas de personnage à incarner. Là, c'est des gens qui viennent jouer chez eux, qui à la base ont réservé un escape game. Voilà, c'est tout. Ils incarnent pas forcément. Après, ça dépend des scénarios, mais en général, ils incarnent pas forcément un personnage précis.
D'accord.
Mais
on appelle ça jeu de rôle juste par.
C'est toi qui appelles ça jeu de rôle.
Oui.
C'est vrai. Ça rentre pas dans la catégorie des jeux de rôle.
Non.
Alors, je sais pourquoi je fais l'amalgame, parce que j'ai lu la biographie de Julie, et en fait, tu es issu du jeu de rôle. C'est pour ça que, en fait, toujours aimé l'univers du jeu.
Oui. Depuis toute petite, j'aime beaucoup ça.
D'accord.
Mais alors, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, justement. C'est pour ça que c'est pas stupide d'évoquer le jeu de rôle du tout. Au contraire, d'ailleurs, parce que c'est souvent, d'ailleurs, même les gens qui ont fait des escape games viennent souvent du jeu de rôle. Et aussi les gens qui travaillent dans les escape games. C'est assez marrant pour avoir côtoyé plein d'autres game masters. Souvent, les game masters font du jeu de rôle à côté, sont un peu. Voilà,
mais ça m'étonne pas, parce que.
Il y a un lien. Ouais.
J'en reviens à cette notion de personnage pour plonger dans un univers en te disant, bon, ben là, t'es enfermé, t'as une heure pour sortir de la pièce, il va falloir résoudre des énigmes. J'ai l'impression qu'il faut l'incarner un peu, cette sensation d'être enfermé.
Mais de toute façon, le game master en général, oui, il joue un rôle. Parce qu'il n'est pas juste, bonjour, je vous accueille. Il joue un rôle pour vous plonger, pour plonger les joueurs en fait vraiment dans le scénario.
Ouais, donc c'est le cas aussi dans Once Upon a Lock.
Exactement, voilà. Mais là, le game master a un rôle un peu différent des escapes classiques.
Tu dis le game master parce que c'est pas toi ?
Si, oui, enfin, le game master, je dis pas forcément là, mais
voilà,
si.
Ok, donc c'est toi qui fais tout, qui installe le matériel, qui fait jouer,
etc. C'est moi qui fais tout.
Comment ça se passe, Lucien, dans les coulisses des escape games ? Il y a de la préparation aussi, il y a toute une équipe, chacun un rôle particulier pour accueillir les participants ?
Alors ça dépend des escape games, mais classiquement donc dans les lieux escape games, dans les lieux divertissement, il y a le game master accueille les joueurs et une fois qu'il fait aussi un brief auprès des joueurs, c'est là que peut intervenir effectivement là aussi le rôle un petit peu, parce qu'il peut avoir ou pas des fois, il y a des escape games où les gens ont pas du tout, il y a pas du tout d'immersion, enfin de rôle spécifique, mais il peut y avoir une immersion dans le rôle un peu, dans le scénario que tu fais selon l'escape game que tu fais, et ensuite on envoie les joueurs donc dans la salle, et après on les surveille, on les surveille, le mot est un peu
par
fort,
on a un regard
voilà, dessus pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a rien qui casse, que tout fonctionne bien correctement, donc on les voit par le biais de caméras de surveillance et on les entend et on peut les aider en leur envoyant des indices, des choses comme ça pour suivre la partie de bout en bout, et à la fin on fait un débrief aussi, on explique selon s'ils ont réussi ou pas l'escape game, on peut voir avec eux tout ça, puis on fait voilà. Il y a effectivement tout un suivi. Après, tu parlais pour un suivi sur l'escape game en lui-même, ça dépend là aussi des escape games. Quand c'est des escape games un peu plus personnalisés, un peu plus de façon artisanale, on va dire.
Il peut y avoir des interventions.
Il y a une préparation. Alors, non, c'est pas tant ça, mais je veux dire, c'est que par rapport à la salle, il peut y avoir beaucoup plus de préparation, d'essayer d'innover en permanence, choses comme ça. Par contre, dans les firmes, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus installées avec des salles qui sont déjà, voilà, il y a juste de la petite régie, des petites choses à faire comme ça. Mais pour les interventions, après, ça dépend, quel que soit l'escape game, quel que soit l'importance des escape games, ça c'est surtout une question de scénario, en fait, selon comment l'escape game est fichu, il y a peut-être des fois des interventions de gens, peut-être pas d'intervention du tout, il y en a qui se font des fois avec des acteurs, il y a vraiment de tout, en plus, maintenant, dans l'escape game.
Capucine et Eva sont aussi avec nous autour de la machine à café, vous avez déjà pratiqué, vous en avez déjà fait des escape games ?
Moi non, et ça me tente pas trop parce qu'en fait je suis claustrophobe, du coup ça m'angoisse assez.
Ah, bonne intervention. Que fait-on des claustrophobes ?
Alors, ça dépend ce que tu appelles claustrophobe, enfin, si c'est vraiment endroit très restreint ou si c'est juste le fait d'être enfermé quelque part.
C'est le fait d'être enfermé dans un endroit restreint.
Ok, parce qu'en soi, on est... Enfin, à part certains, mais normalement c'est précisé des escapes où on est vraiment dans des endroits très restreints. Après, en général, c'est des pièces. Hein. Enfin, c'est
d'accord.
Je veux dire, c'est quand même des pièces assez grandes où la plupart du temps on peut tenir jusqu'à 6 personnes, pas forcément en se marchant dessus. Donc voilà, c'est. Et puis, dans tous les cas, même s'il y a un moment où ça va pas, il y a toujours de la sécurité. Donc, tu as toujours des boîtiers qui te permettent du coup d'ouvrir les portes si jamais il y a.
Et puis pour le
quoi que ce soit qui va pas.
Pour le coup, en appartement, ça peut être le moyen pour les claustrophobes de pratiquer l'escape game, même s'ils ont très peur à l'extérieur. Dans quel genre de pièce de la maison mets-tu ton décor ? Est-ce qu'on est dans la salle de bain ? Est-ce qu'on est dans la cuisine ? Ou plutôt traditionnellement dans le salon ?
Eh ben, on est dans la chambre, dans la salle de bain, et puis après dans la pièce principale, donc salon, salle à manger, cuisine. Ouais.
Un peu partout.
Voilà, je m'étale.
Faut pas qu'il y ait de coloc, quoi. En gros, il faut que les colocs participent. Si,
Ils peuvent, hein, mais oui, non, après, pas dans le jeu. Voilà, c'est vrai que maintenant, je l'ai fait quelques fois avec des gens qui ne jouent pas dans le logement, et en fait, ça casse un petit peu l'immersion. Et puis, quand il y a quelqu'un qui sort pour aller chercher des cornichons au frigo, en plein milieu, voilà.
Ça fait un peu bizarre. Capucine, tu as déjà pratiqué aussi les escape games ?
Oui, j'en ai fait quelques-uns, et j'ai testé le prétexte de Julie. J'ai eu très peur.
Ah, ça fait peur. Alors, on va rentrer justement dans les différents univers. Tu proposes au moins 4 types d'escape game, 4 ambiances différentes. Donc, le prétexte en est une, me semble-t-il. Tu nous les décris, ces 4 ambiances ?
Alors, donc, il y a le prétexte. C'est uniquement adulte.
Ça fait peur.
Ça fait peur, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. J'en dis jamais trop sur le scénario parce que j'ai vraiment envie que les gens soient surpris quand ils arrivent. En gros, c'est la personne a réservé un escape game avec Once Upon a Lock chez elle, et en fait, quand elle arrive, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et c'est un peu la mauvaise surprise, voilà.
D'accord, donc ça c'est plutôt le genre d'escape game qu'il faut recommander pour faire une surprise à quelqu'un qui s'y attend pas du tout.
Complètement,
quoi.
Ou même pour les enterrements de vie, jeune garçon, jeune fille, enfin voilà, c'est...
Ok, il y en a un autre qui s'appelle Slenderman.
Ouais, alors Slenderman il est un peu spécial, c'est pas vraiment un escape game, c'est un... c'est escape game, jeu de piste, sur le thème du Slenderman, je sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout.
Ok. Le Slenderman, c'est une légende urbaine qui est née sur Internet en 2009. C'est un très grand humanoïde en costard qui n'a pas de visage. Et ils en ont fait un jeu vidéo, un film, enfin voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça se déroule uniquement de nuit et en forêt.
Ah oui, donc c'est à domicile, mais...
ça se déroule sur un terrain d'airsoft à Saint-Médard-en-Jal.
D'accord. Ouais.
Et c'est... uniquement la nuit et uniquement en forêt, et puis
Ah oui, donc pour le coup la peur en appartement, ça peut être encore pire Slenderman.
La plupart du temps, c'est sûr que quand on se retrouve en forêt où on connaît pas, et puis on n'est pas forcément tout seul.
Ouais,
il s'agit plus d'être claustrophobe.
Ouais, là c'est au moins il y a pas de problème de claustrophobie, quoi.
Voilà, bon, pour en profiter pour récupérer un sanglier ou deux.
Ouais.
On sait jamais.
Ça m'aide. Hein.
La dernière mission, c'est une histoire d'espionnage et de biologie.
Ouais, exactement. Donc la dernière mission, c'est plus un escape classique. Voilà. Quand le prétexte est un escape un peu original, la dernière mission est bien plus classique. C'est plus pour enfants, famille. C'est en gros, donc là, ils incarnent des agents secrets sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour être des agents secrets. Et en fait, ils sont envoyés sur une mission pour valider leur diplôme d'agent secret. Et il faut qu'ils enquêtent sur un biologiste qui travaillerait sur la modification de l'ADN humain.
D'accord, j'en profite pour demander quels sont les genres de questions, d'indices qui sont indiqués aux joueurs pour qu'ils puissent résoudre l'enquête et sortir pro.
Ça dépend. Ouais, et puis moi, je marche vraiment à l'instant T, et puis aux gens, suivant les gens que j'ai en fait en face de moi, j'ai pas un papier où je me dis, hop, à tel moment je leur dis ça, à tel moment je leur dis ça.
D'accord, c'est pas ça aussi dépend. Protocolaire qu'un Cluedo, par exemple,
non,
où on a forcément le colonel moustache.
Ah ouais, non.
D'accord.
Ça n'a rien à voir, c'est vraiment au feeling, suivant comment ça se passe avec les gens, voilà, j'ai pas du tout là-dessus, je suis... free, quoi.
D'accord. Et les indices arrivent en fonction de...
Ouais, en fonction d'où ils en sont. Voilà. Où est-ce qu'ils en sont à tel moment, je leur donne, je les aide ou pas.
Il y en a un petit dernier, c'est l'équipage du Perle Rouge. J'imagine qu'on est dans l'univers pirate un peu.
Oui, alors là, mais par contre, c'est pour les tout petits.
Pour les enfants, ouais.
Voilà. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai deux. J'ai la Pierre de Lune et l'équipage du Perle Rouge. C'est deux espèces de petits jeux de piste, mais pour les tout petits, c'est 5 à 8 ans. Donc ça, c'est un peu la chasse au trésor, mais des tout petits qu'on fait dans le jardin avec un petit circuit à suivre et arriver à la fin au trésor.
Et pour Escape Yourself, plusieurs univers aussi, ou c'est un seul univers que vous maîtrisez à fond?
Oui, non, Escape Yourself, c'est une firme en France, donc il y a plein de scénarios différents pour 25 escape games différents. En l'occurrence, à Bordeaux, il y a plusieurs scénarios, et pareil, avec une accessibilité, il y a l'escape le plus familial, on va dire, avec l'escape game Pharaon, le scénario Pharaon, voilà, où on peut venir en famille, tout ça, puis on peut venir surtout quand on n'a pas jamais fait d'escape game, c'est pas mal pour commencer comme premier escape, avec que des mécanismes d'ailleurs en l'occurrence. C'est sa petite originalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de coffre à ouvrir, des choses comme ça, c'est que des choses qui s'ouvrent et des mécanismes, des trappes, des choses comme ça.
D'accord.
Et ensuite, ça monte petit à petit de niveau en niveau. Il y a l'atelier du Père Noël, où on va dans l'atelier du Père Noël pour trouver des petites choses. Il y a aussi le manoir d'Ernestine, qui est un peu plus compliqué celui-là et qui a un côté un petit peu angoisse, où on revient un peu au premier scénario dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi un escape game en réalité virtuelle, ça c'est assez nouveau, où là vous avez carrément les casques de réalité virtuelle, et c'est un vrai escape game, hein. Vous vous retrouvez dans une salle, mais tout se passe vous dans le casque, et vous vous retrouvez avec l'équipage du Nautilus à essayer de combattre le Kraken. Et c'est un vrai escape game avec des énigmes, des choses comme ça.
Et on peut rajouter du coup des éléments visuels à travers le casque.
Alors voilà, l'escape game en réalité virtuelle, ça qui est assez nouveau, c'est vrai que c'est un truc qui va un peu se développer par rapport à ça, c'est que ça va ouvrir une infinité un petit peu de scénarios, qui pourra un petit peu tout se faire. Alors, c'est les débuts.
On m'a dit que dans les escape games les plus difficiles, c'était le groupe qui faisait qu'on arrivait à résoudre l'énigme et à sortir de l'escape game. Individuellement, peu de gens y arriveraient, mais comme le groupe, il y a plusieurs intelligences, entre guillemets, il y a plusieurs façons de réfléchir. Il y a le logique, il y a le rationnel, il y a celui qui coordonne le groupe, etc. Et c'est cet effet de groupe qui fait qu'on arrive à résoudre une énigme. Vous confirmez ?
Ah oui, totalement. Hein.
Ouais, complètement. Après, tu parlais d'intelligence. Moi, je dirais plus que c'est de la différente logique, en fait. Tout le monde n'a pas la même logique. Et il y a des énigmes qui vont paraître super dures à certaines personnes et d'autres pour qui c'est hyper simple. Mais c'est vrai qu'en général, dans le groupe, il y a toujours la personne qui va plus s'occuper de la fouille ou celle qui va plus aller sur les trucs mathématiques. Enfin, voilà. C'est vrai que souvent, les gens se complètent assez bien.
Naturellement, ou on sent au début du jeu qu'il y a peut-être une mécanique du groupe à rôder un petit peu.
Franchement, je pense que ça se fait naturellement.
Ah oui.
L'escape, en fait, c'est bien parce que je trouve que ça ressort vachement le naturel des gens. La personne qui est de nature leader, par exemple, va de suite prendre les devants et dire « Ah bon, ben, on fait ça, ça, ça ». Enfin voilà. Et ça ressort vachement la personnalité des gens.
Et ça arrive qu'il y ait par exemple deux leaders dans un même jeu et qu'il y ait des querelles ou je sais pas, un couple, et que du coup l'escape game fasse ressortir tous les problèmes de couple.
Ça peut arriver.
Et c'est le divorce.
Ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Enfin, les gens de l'extérieur nous demandent souvent ça. Est-ce qu'il n'y a pas des couples qui se séparent, des trucs comme ça? C'est pas tous les jours non plus, quoi. Il faut pas s'imaginer. Mais c'est vrai que ça peut arriver, que ce soit un peu tendu. Mais très honnêtement, quand même, les gens se lancent vite, comme tu disais, naturellement. Les gens rentrent dans un truc où progressivement, ils vont rentrer dans le scénar, quel qu'il soit, et ils vont essayer d'y arriver. Il y a pas de... ça marche assez bien en général.
Quel est le taux de réussite en général de...
C'est de tout. Hein.
C'est hyper variable.
Ah oui, je pensais que globalement. Les gens arrivaient majoritairement à sortir en une heure de la pièce, quoi.
Ça dépend à la fois du scénario et aussi de un petit peu du fonctionnement de ton escape game. C'est-à-dire que déjà le scénario, il y a des scénarios où les gens vraiment calculent le scénario pour qu'il y ait 2-3% de réussite et que ce soit l'escape game le plus dur où c'est extrêmement difficile de sortir et tout le monde sort victorieux. Et puis il y a des escape games très accessibles qui du coup ont un gros taux de réussite parce que comme on les propose à des gens qui sont un peu novices, et je dis on, mais ça vaut pour à peu près tous les escape games. Après, il y a aussi une question de fonctionnement, c'est-à-dire que quand tu fais ton escape game, tu vas choisir si tu estimes qu'il vaut mieux que les GM fassent en sorte que les gens gagnent ou que les gens arrivent à la dernière énigme ou à la dernière salle. Ça, c'est des politiques d'escape game. Chacun a un peu son fonctionnement.
Et c'est là qu'on voit que tout s'écrit à l'avance, à travers le scénario. Ça prend du temps, ça, de préparer, de conceptualiser le jeu de A à Z.
C'est très long.
Ouais.
C'est très, très long.
Combien de temps ? 6 mois ?
Et puis après, c'est vrai que le faire tout seul, c'est très compliqué. parce qu'il a donc déjà trouvé son scénario.
Il faut le tester ensuite.
Oui, mais alors il faut le tester une fois que tout est prêt, parce qu'en soi avant c'est un peu compliqué, mais voilà, on choisit son scénario, on fait tout ce qui est énigme, histoire et tout ça, et puis après une fois que tout ça c'est fait, il faut tout le matériel qui sera utilisé pour le jeu. Et rien que la conception du matériel et tout ça, mais oui, c'est très long. Après, donner le temps que ça prend.
Oui, puis ça doit dépendre aussi, je suppose, des scénarios aussi, selon quel truc
il faut. Ouais, moi, c'est vrai que voilà, je me suis fait aider par une société pour me faire mes mécanismes et tout ça, pour m'aider dans la conception des énigmes. Voilà, je ne l'ai pas fait toute seule.
Mais c'est vrai qu'on comprend que pour que tout soit logique et tout s'imbrique bien avec compliqué. Les décors, etc., ouais. Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, ça, c'est pas à la portée de n'importe qui, quoi.
Mais sinon, du coup, tu es toute seule dans l'équipe? Comment c'est organisé ton...
Oui, je suis toute seule.
D'accord.
Je travaille toute seule. Après, j'ai mon frère qui m'aide, notamment pour le Slenderman, parce que c'est très compliqué à organiser toute seule. Mais sinon, oui, en général, je suis toute seule.
Vous êtes en concurrence, tous les escape games, ça s'est développé, il y a un succès grandissant. D'ailleurs, on a peut-être une raison d'expliquer le succès de cet escape game. Est-ce que vous l'expliquez, cet engouement massif?
L'engouement, il y a plusieurs questions là, mais l'engouement déjà, il y a eu, j'ai l'impression, un effet de mode. Alors, vraiment comme il y a des effets de mode qui arrivent, pour un peu tout et n'importe quoi, mais c'était il y a quand même un moment, là, il y a 4-5 ans.
À mon époque, à mon époque, la mode c'était le laser game, ou le paintball. C'était les modes qui sortaient à cette époque-là.
C'est un très bon exemple, c'est-à-dire que sans aucune comparaison, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu ce côté un peu comme avec les laser quest, laser game un temps. Il y a eu d'un coup, oui, un petit peu un succès de l'escape game, les gens ont voulu essayer tout ça, voilà, maintenant on en arrive, il y a des compétitions internationales d'escape game, des trucs comme ça, donc je pense que c'est juste un effet de mode qui a évolué, parce que bien sûr derrière ça a entraîné des évolutions dans les escape games en eux-mêmes. Mais après, tu parlais donc de concurrence, alors ça, bon, déjà à mon échelle je peux difficilement en juger, mais c'est vrai qu'après entre les patron, on va dire, d'escape game, et je parle essentiellement des grosses firmes, des choses comme ça. Oui, il y en a sûrement un peu, parce que derrière, c'est un petit peu à celui qui aura le plus d'escape game en France, ou un peu.
Ou qui aura des grosses firmes.
Alors, comme toute entreprise, c'est ça qui est un peu dommage, personnellement, je trouve. Bon, après, j'ai la liberté de pouvoir le dire, c'est plutôt pas mal, mais c'est que du coup, les firmes, c'est comme un peu pour tout, les firmes écrasent forcément les petites initiatives, plus petits escape games. C'est un peu dommage, notamment sur Bordeaux. Voilà, c'est difficile maintenant aujourd'hui de venir. C'était un concept d'ouvrir un local. Après, ça doit être un peu différent pour les escapes plus itinérants. Mais d'ouvrir un local sur Bordeaux et de créer ton escape où tu es tout seul, c'est très compliqué.
D'où l'idée
un peu bouffé par tous les
escapes. D'où l'idée de Julie de trouver un concept innovant et d'adapter ça pour les à domicile, quoi, pour les particuliers. Ok, on va donner les adresses, alors, si vous voulez pratiquer ces escape games. Donc, pour Once Upon a Lock, Julie, il faut te contacter.
Il faut me contacter, donc il y a mon numéro de téléphone sur le site, donc onceuponalock.com. On a une page Facebook aussi, on peut nous contacter, Instagram. Je me déplace, donc en soi, il n'y a pas besoin d'adresse, vu que c'est moi qui viens à vous directement. Et puis voilà.
Et puis voilà, le tarif, c'est combien à peu près?
Alors, pour le Slenderman, c'est jusqu'à 10 joueurs et c'est 200€ la session, peu importe combien vous êtes. Et pour les Escape Games, ça, c'est 130€.
Ok.
Après, voilà, suivant.
Le groupe, après, suivant le nombre de personnes, voilà. Ça divise le tarif.
Exactement.
Et pour Escape Yourself, l'adresse à Bordeaux à laquelle se rendre?
C'est boulevard Brandenburg à Bacalan. Et puis, il y a de toute façon toutes les informations sur le site internet Escape Yourself Bordeaux. Et puis, la page Facebook aussi, Escape Yourself Bordeaux.
Super. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de ça. Ça m'a donné envie d'en pratiquer.
Campus Bordeaux.
Bordeaux, show you.
88.1.